Bonjour, au micro Idrissa Seloudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a reconnu hier que les États-Unis subissaient une hausse inquiétante des contaminations au COVID-19 dans une partie du pays, appelant la population à porter un masque. Plus de 60 000 nouveaux cas en l'espace de 24 heures ont été recensés pour le 8e jour consécutif. Le total atteint 3,89 millions de cas positifs. Cela va sûrement, malheureusement, empirer avant de s'améliorer, a déclaré le président Trump. La flambée des infections est particulièrement importante dans le sud et l'ouest du pays. On déplore aux États-Unis 141 883 décès, selon l'université Johns Hopkins. Le gouvernement américain a révélé hier l'inculpation de deux hackers chinois accusés d'avoir mené en coopération avec leur gouvernement de nombreuses attaques informatiques, notamment contre des entreprises engagées dans la recherche sur le COVID-19. Le bilan de la pandémie a dépassé les 40 000 morts au Mexique, qui se situe au quatrième rang de tous les pays du monde en nombre de décès liés au COVID-19, derrière les États-Unis, le Brésil et le Royaume-Uni. Signaux également alarmants en Bolivie, où la police a indiqué avoir collecté plus de 400 cadavres des rues et des maisons à travers le pays au cours des 5 derniers jours, dont 85% de personnes victimes du virus. En Afrique, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a officialisé mardi soir la levée de l'état d'urgence sanitaire avec une reprise des activités en 3 étapes, dont la réouverture des frontières le 15 août. Mais cela ne signifie pas la fin de l'épidémie dans le pays, a rappelé M. Tshisekedi, en insistant sur l'importance du respect des gestes barrières. Port obligatoire du masque dans les lieux publics, lavage des mains, prise de température. La RDC a enregistré 8534 cas, dont l'immense majorité à Kinshasa, 196 décès et 4528 guérisons. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a décrété mardi un couvre-feu et réinstauré des mesures strictes de confinement pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus après une brusque récente hausse des cas qui ont atteint 1713. Le nombre des décès est lui passé de 18 à 26 dans ce pays, dont le système de santé publique est en ruine après des années de sévères crises économiques. 5 chefs d'État ouest-africains, dont le président nigérian Muhammadu Buhari, se rendront ce jeudi à Bamako pour contribuer à apaiser le climat sociopolitique et appuyer les efforts de médiation des États de la région après des semaines de contestation du pouvoir. M. Buhari, dont la participation a été annoncée mardi, accompagnera ses homologues Macky Sall du Sénégal, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo du Ghana et Mahamadou Issoufou du Niger. Malabo et Yaoundé ont signé mardi un accord de coopération en matière de défense et de sécurité transfrontalière. Leur relation s'est étendue cette année avec le lancement par la Guinée équatoriale de la construction d'un mur contre, entre autres raisons, l'immigration clandestine à sa frontière avec le Cameroun. Cet accord prévoit la prohibition de l'usage de la force entre les deux pays et la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre, selon un communiqué. Ces dispositions exactes n'ont pas été dévoilées par les autorités. L'Éthiopie a annoncé hier avoir atteint le niveau de remplissage prévu pour la première année du réservoir du barrage géant qu'elle construit sur le Nil. Mais ce faisant, elle risque d'accroître encore les tensions avec l'Égypte et le Soudan, ses voisins situés en aval qui craignent pour leur approvisionnement en eau du Nil.
La suite de nos informations. En République démocratique du Congo, de sérieux désaccords apparaissent au sommet de l'État. Le Premier ministre demande de rencontrer le président Félix Tshisekedi au sujet de nominations faites à son insu et sans sa signature. C'est une nouvelle turbulence au sein de la coalition au pouvoir, Eddy Issango.
Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, issu de la majorité parlementaire, révèle dans un communiqué qu'il était surpris d'apprendre les dernières nominations au sein de l'armée, la justice et dans certaines agences de l'État. Il souligne que le chef de l'État l'avait envoyé en mission à Lubumbashi et que ses ordonnances sans sa propre signature ont été lues dans les médias d'État. Il précise avoir donné à son vice-premier ministre qui et d'élus de PS, la mission de recevoir tout courrier qui lui est adressé, mais de le contacter en cas de nécessité. Ce dernier ne l'a pas fait et a contresigné les ordonnances. Le Premier ministre avait déjà demandé au président de saisir la Cour de cassation pour faire libérer le ministre de Justice arrêté pour avoir envoyé un avis favorable à l'Assemblée nationale. La majorité parlementaire a déjà lancé des ballons d'essai pour tenter de contrôler la justice et mettre Rontsar Malonda à la tête de la CENI. Les nuages s'amoncellent, mais le président Tshisekedi a annoncé la semaine dernière à Brazzaville que la coalition CACH-FCC était loin d'être rompue.
En Guinée, plusieurs manifestants réclamant la fin des coupures d'électricité et la construction d'un barrage hydroélectrique ont été blessés et arrêtés hier dans l'est du pays. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Des centaines de personnes ont protesté à Cancan pour exiger la construction d'un barrage hydroélectrique, une promesse, selon elle, du président Alpha Condé. Pas de courant, pas d'élection en Haute-Guinée, pas de troisième mandat pour le président Condé, élu en 2010 puis réélu en 2015, ont scandé les protestataires. D'après les forces de l'ordre, je cite, « les manifestants ont été très violents et ont préféré l'affrontement à la négociation, confirmant qu'il y a eu des blessés et des arrestations. » Le président Condé, 82 ans, est soupçonné par l'opposition de vouloir briguer un troisième mandat lors de la présidentielle prévue en octobre. Les manifestations contre cet éventuel troisième mandat ont repris lundi à Conakry. Elles ont été marquées par des heurts avec les forces de l'ordre. Alpha Condé n'a pas encore révélé ses intentions, mais a dit plusieurs fois qu'il revient à son parti de décider s'il sera ou non candidat pour un nouveau mandat.
Les principaux hôpitaux de la capitale malgache, Antananarive, sont submergés par l'afflux de patients atteints de COVID-19, alors que le nombre de malades ne cesse d'augmenter. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans les principaux hôpitaux d'Antananarive, les lits commencent à manquer. L'hôpital Andotopeneka ne reçoit plus que des cas graves, selon son directeur. Le nombre de cas augmente de plus en plus, alors pour une bonne prise en charge des malades, on ne prend plus que les cas graves, a-t-il ajouté. Il ne reste plus que 4 places disponibles sur un total de 50, a-t-il précisé. Dans un autre hôpital, Joseph Raceta, on est encore débordé. Impossible de libérer des places pour l'instant, a expliqué son directeur, le professeur Mamirandria. Dans une lettre aux agences et partenaires au développement, le ministère malgache de la Santé a fait une requête urgente pour l'appui à la lutte contre le COVID-19. Madagascar a enregistré officiellement 7548 cas, dont 65 décès. Le président Ange Rajoel a fait largement distribuer à la population une tisane à base de plantes baptisée COVID organique. Les éventuels bienfaits de cette tisane n'ont à ce jour été validés par aucune étude scientifique. Le gouvernement attribue la hausse des cas notamment à l'augmentation de la capacité de dépistage.
La Minute Éco, John Linden.
Les revenus pétroliers et gaziers de l'Algérie devraient chuter à 23 milliards de dollars cette année contre 33 milliards de dollars en 2019 et 60 milliards en 2014. Le ministre de l'Énergie estime que son pays est dans une situation économique difficile. Membre de l'OPEP, l'Algérie a adopté une nouvelle loi sur l'énergie en novembre 2019 pour rendre le secteur pétrolier plus attractif, mais n'a pas publié les textes pour la mettre en œuvre, freinant ainsi l'engouement des investisseurs internationaux. Le groupe Vodacom prévoit de créer une super application en partenariat avec le fournisseur de paiement numérique Alipay qui fait partie du groupe chinois Alibaba, pour permettre aux consommateurs sud-africains de faire des achats en ligne, de payer leurs factures et d'envoyer de l'argent à leur famille dès l'année prochaine. Le plus grand opérateur mobile d'Afrique du Sud en termes d'abonnés, MTN, prévoit également de proposer une application similaire. Le producteur russe de diamants Alrosa a indiqué mardi avoir commencé des travaux de prospection et d'exploration pour les gisements de diamants au Zimbabwe dans le cadre d'une opération conjointe avec la ZCDC, la Zimbabwe Consolidated Diamond Company. Suite à la signature d'un accord de co-entreprise, nous progressons bien vers le lancement des travaux de prospection à grande échelle cette année, a déclaré le PDG adjoint d'Alrosa, Vladimir Marchenko.
L'espoir à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La MAFSI, l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, a accordé son parrainage à Didier Drogba, candidat déclaré à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. On avait promis depuis Yamoussoukro qu'on ira jusqu'au bout, a confié à l'infodrome Yaouré Loba, président de la commission régionale des arbitres d'ICIA et président de la conférence des présidents des arbitres. Sur 223 votants, l'ancien capitaine des éléphants a recueilli 218 voix, soit 97,57% lors de l'assemblée générale de ses arbitres à Yopougon. Didier Drogba en est reconnaissant. Didier Drogba, candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Pour rappel, 24 présidents des centres régionaux d'arbitres, conduits par le président sortant Koulibaly Souleymane, avaient accordé leur parrainage le samedi 13 juin à Yamoussoukro au candidat déclaré Souri Diabaté. Une partie des arbitres en avait été exclue. Et ce sont ces exclus de Yamoussoukro qui se sont réunis le lundi 20 juillet en Assemblée générale à Yopougon pour accorder leur parrainage à Didier Drogba. Au Burkina Faso, Aristide Bansé a mis un terme à sa carrière internationale. Buteur emblématique de la sélection burkinabé, l'actuel attaquant du Oroya AC de la Guinée arrête sa carrière internationale à 35 ans. Il a officiellement annoncé au sortir d'une audience avec le président Roch Kabore, Aristide Bansé.
Pour moi, c'était le moment d'arrêter, voilà, de laisser quand même cette sélection. Vu que quand même, j'ai assez joué. Hein. En tout cas, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir de porter le maillot national. La place que j'ai laissée là, c'est au plus méritant. C'est comme ça. L'équipe nationale, ça n'appartient pas à un jeune, ça n'appartient pas à quelqu'un, à qui que ce soit. L'équipe nationale, ça appartient au plus méritant et au plus battant. Celui qui a envie de mouiller le maillot pour son pays là, c'est lui qui porte le maillot de l'équipe nationale. Mais je vais voir comment je me sens, si je vais continuer avec l'Oréa ou si je vais m'arrêter là.
Aristide Bansé, désormais ex-attaquant des étalons du Burkina Faso, international depuis 2003 et auteur de 25 réalisations en 79 sélections, le natif d'Abidjan a mené les étalons à la finale de la CAN 2013, perdu face au Nigeria 0-1. Il a connu une vingtaine de clubs au cours de sa carrière et a aussi décroché le bronze lors de la CAN 2017 au Gabon. Ici, en NBA, les votes pour désigner le meilleur joueur de la saison et attribuer les autres trophées individuels ont débuté avec le vote des médias. Outre le trophée de MVP, brigué par le favori à sa propre succession, Gianni Antetokounmpo des Milwaukee Bucks et la superstar des Lakers, LeBron James, des journalistes du monde entier ont une semaine pour également désigner le défenseur de l'année, le rookie de l'année, entre autres. Le championnat doit redémarrer le 30 juillet. Les play-offs commenceront le 17 août et les finales se termineront au plus tard le 13 octobre.
Vous êtes croyant, animiste ou athée? VOA Afrique vous accorde une tribune dans Dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manirakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des religions.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, un collectif d'organisations de défense des droits humains alerte sur un risque de radicalisation dans les prisons du pays. Il ressort d'enquêtes que les détenus djihadistes côtoient sans restriction les autres, pour qui parfois ils jouent des rôles d'éducateurs religieux, indique un rapport. Notre correspondant à Niamey, Abdourahman Idrissa.
Le document présenté à la presse à l'occasion du Mandela Day célébré le 18 juin dernier a passé en revue la situation des droits humains en milieu carcéral au Niger. Les enquêteurs du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie se sont principalement intéressés à trois prisons du pays, la prison de haute sécurité de Koutoukalé, la maison d'arrêt de Niamey et le camp pénal de Kolo. Le fait majeur relevé par les enquêteurs reste le risque poussé de radicalisation du fait de la coexistence entre détenus pour faire de terrorisme ou de djihadisme et les autres. Kani Abdoulaye, coordonnateur du collectif.
Dans la majorité des prisons visitées par le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, les prisonniers de toute nature vivent ensemble, d'une manière générale. Les détenus ne sont pas séparés, suivant leur statut juridique ou la nature des infractions commises. Qu'ils soient grands criminels ou petits délinquants, ils vivent dans le même environnement. Du coup, les détenus djihadistes et autres détenus se côtoient avec tous les risques possibles de créer un cadre propice de partage de pensées extrémistes. Dans certaines maisons d'arrêt, ce sont des djihadistes qui remplissent en général le rôle de chef spirituel. Nous sommes conscients que l'extrémisme violent est en général le fruit de l'inaction. C'est pourquoi nous jugeons nécessaire de mener des actions visant à minimiser ce fléau afin de contribuer à la création d'une véritable communauté pacifique.
Le risque de radicalisation des autres détenus s'accroît également, selon le collectif, du fait du sentiment d'injustice que ressentent certains détenus dont les procédures judiciaires les concernant sont trop lentes.
D'autres formes de violations des droits humains sont constatées au niveau des maisons d'arrêt visitées. Il s'agit du maintien prolongé en détention provisoire et la violation du droit à la présomption d'innocence pour les personnes en détention préventive. L'analyse des effectifs des prisons de Niamey, Kolo et Koutoukalé fait ressortir un nombre très élevé de détenus préventifs par rapport au nombre de condamnés. À titre d'exemple, la prison de Niamey compte un nombre très élevé de prévenus, 950 par rapport au nombre de condamnés, 125. Ainsi, l'on assiste à la violation de l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui reconnaît et garantit, entre autres, le droit d'être jugé par une juridiction impartiale dans un délai raisonnable.
Le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie a formulé des recommandations au pouvoir public, recommandations allant dans le sens de séparer les détenus selon la nature de leur infraction et de former le personnel pénitentiaire en matière de détection des risques de radicalisation au sein des maisons d'arrêt. Abdelrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Après de longues et difficiles négociations, les dirigeants de l'Union européenne ont conclu ce mardi un accord sur un plan de relance. Quelques 750 milliards d'euros seront mobilisés pour aider 27 pays européens à redynamiser leurs économies post-Covid. En Afrique, où les économies des pays connaissent une contraction à cause de la pandémie, on note une absence de réponse coordonnée. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint à Dakar l'économiste Demba Moussa Dembélé.
Pour parler d'une seule voix, parce qu'elle a l'habitude, au niveau des 27, de parler d'une voix quand il s'agit de problèmes cruciaux. Cette période post-Covid est une période très cruciale pour l'Europe, mais là, pour l'Afrique. La difficulté, c'est d'abord au niveau, même au niveau régional, la difficulté de pouvoir parler d'une seule voix sur ces questions, encore moins au niveau continental. C'est beaucoup plus difficile.
Pourquoi, par exemple, des institutions comme la CEDEAO, qui sont assez bien intégrées quand même, n'arrivent pas à mettre en place un programme commun?
La CEDEAO se compose de pratiquement deux entités. Il y a les pays de l'UMOA et il y a les autres qui ont leur propre monnaie nationale et qui donc ont des stratégies qui sont un peu différentes de celles de l'UMOA. Mais même au niveau de l'UMOA, il y a eu un programme de relance. Mais malheureusement, comme vous le savez, il y a une différence entre mettre sur pied un programme de relance et mobiliser les fonds pour la mise en œuvre de ce programme de relance. Et l'un des tendons d'Achille de l'Afrique, c'est la question du financement. L'Europe a les moyens de financer son programme parce que d'abord, au niveau de chaque pays, les gouvernements peuvent mobiliser au niveau interne, mais il y a également le soutien de la Banque centrale européenne. Malheureusement, en Afrique, ce n'est pas le cas.
Monsieur Dembélé, justement dans la recherche de solutions, en tout cas dans les propositions pour aider les économies africaines, beaucoup évoquent la question de la dette.
Les 200 milliards que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a estimé, ces 200 milliards doivent venir pour la plupart de l'extérieur. Et c'est là où se pose le problème de la dette. Parce que venir de l'extérieur, ça veut dire quoi? Ce qu'on appelle les partenaires au développement, les bailleurs de fonds, multilatéraux et bilatéraux. Et donc, ça va gonfler la dette du continent. Et vous avez évoqué, bien sûr, le débat actuel sur l'annulation ou le moratoire sur la dette, tout simplement parce que c'est de cette manière que la plupart des pays africains espèrent mobiliser des ressources. Alors, mais l'annulation de la dette ne peut pas régler le problème du financement de l'Afrique, parce que d'abord, ça représente une somme mineure par rapport aux besoins. Et ensuite, il y a les conditions qui accompagnent cette annulation de la dette et qui risquent même de poser des problèmes pour des endettements ultérieurs.
L'économiste sénégalais Demba Moussa Dembélé.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Cameroun, les autorités médicales affirment que plus de 200 000 enfants n'ont pas reçu à temps les vaccinations de routine depuis mars à cause du Covid-19. Les parents refusent d'amener leurs enfants à l'hôpital par peur d'être infectés par le virus qui affecte 17 000 personnes et a fait près de 400 morts. Les médecins préviennent que, sans les vaccinations, les enfants risquent d'attraper des maladies évitables comme la diphtérie, la rougeole et le tétanos. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, repris ici par Mohamedou Humfa.
Bébé de 4 mois pleure en recevant son deuxième vaccin contre la polio à l'hôpital de la Fondation Chantal Biya à Yaoundé, la capitale. Elisabeth Mbougon, 27 ans, se fait vacciner avec son bébé avec près de 3 mois de retard parce qu'elle avait peur d'aller à l'hôpital pendant la pandémie du Covid-19.
J'ai accouché au mois de mars et le premier vaccin a été administré au bébé contre le tétanos. Ils m'ont donné un autre rendez-vous pour mois d'avril. Je n'ai pas respecté ce rendez-vous car j'avais peur du coronavirus.
Il a changé d'avis suite à une émission télévisée sur les dangers de ne pas vacciner les enfants. Le pédiatre Clémence Voukmo confirme que pour de nombreux parents, la peur du coronavirus les empêche de faire vacciner leurs enfants.
48 000 enfants à 54 000 enfants non vaccinés entre mars et avril. Pour le mois de juin, nous sommes à 61 000 enfants non vaccinés. La pandémie nous impose la réorientation des ressources et les mesures barrières également ont entraîné une restriction du nombre d'enfants à vacciner par session de vaccination. Des mesures qui vont permettre à l'ensemble des équipes de vaccination d'avoir une communication efficace avec les parents.
Le programme élargi de vaccination précise qu'au moins 200 000 enfants n'ont pas été vaccinés comme prévu. Shalom Tchokfe, adjoint au secrétaire permanent de ce programme, joint au téléphone à Douala.
Nous avons constaté une baisse extrêmement importante du service de la vaccination d'environ 50%.
Les Nations Unies ont mis en garde ce mois-ci contre une baisse alarmante du nombre d'enfants vaccinés contre des maladies évitables telles que la diphtérie, le tétanos et la rougeole. Selon une étude publiée par le journal Lancet Global Health, La poursuite des vaccinations de routine pourrait entraîner 8 300 décès supplémentaires en Afrique dus au COVID-19. Mais selon l'étude, la suspension des vaccinations pourrait entraîner la mort de plus de 700 000 enfants africains des maladies évitables.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, Alassane Ouattara sera-t-il candidat à un troisième mandat? Le débat est relancé après la mort du premier ministre Amadougou Koulibaly, qui était choisi pour défendre les couleurs du RHDP à la présidentielle d'octobre. Ceux au sein de son parti qui se prononce en faveur de sa candidature estiment que cela éviterait une bataille de succession. S'il se présente, il fera face à l'ancien président Henri Konan Bédié. Rendez-vous jeudi 23 juillet à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Les touristes sont de retour sur les plages tunisiennes après une interruption de plus de 3 mois en raison de la pandémie de coronavirus. La Tunisie accueille de nouveau les touristes. Eric Manirakidza.
Quelques 155 vacanciers vêtus de masques venus de France, d'Allemagne et du Luxembourg ont été accueillis la semaine dernière sur l'île balnéaire de Djerba. Les hôtesses leur ont offert des bouquets de jasmine et ont aussi subi des contrôles de température. Emmanuel Lambert est touriste français originaire de Champagne-Ardenne.
Et on s'est décidé il y a 8 jours parce qu'on avait un autre voyage de prévu qui a été annulé dans un autre pays. Et j'ai commencé à faire des recherches. On est quand même 5, hein, c'est compliqué pour trouver à 5. La Tunisie s'est offerte à nous. En plus, le Fiesta, on connaît. On est venu il y a 8 ans, donc la décision a été vite prise.
Emmanuel Lambert dit qu'il ne pouvait pas se passer de ses vacances à cause de la pandémie de coronavirus.
Ben, j'ai intégré le fait qu'on fallait vivre avec le Covid, quoi, parce que de toute façon, moi, j'estime que je peux autant le choper en Champagne-Ardenne, dans la Marne, que choper ici si je fais pas attention. Il suffit de faire attention, à mon avis. Hein. Et il va falloir vivre longtemps avec, donc il faut commencer maintenant. Si on commence à avoir peur d'aller en vacances, je dis pas que j'ai pas peur. Je vais faire attention. On fasse tous attention.
Depuis presque 50 ans, Luxair organise des départs vers la Tunisie. La compagnie se réjouit de son premier charter en dehors de l'Union européenne. Marc Zafra est responsable voyage chez Luxair.
En tout cas, point de vue économique et point de vue social, c'est très important d'avoir relancé les vols parce que des avions qui ne bougent pas en perdent de l'argent. On voit ça avec beaucoup de compagnies aériennes qui ont dû fermer. Nous sommes heureux d'avoir pu démarrer, les hôteliers aussi. Donc c'est très très important pour l'économie globale et locale de relancer le tourisme qui a été très très durement touché.
Les autorités comptent sur la réglementation sanitaire pour rassurer les touristes et le secteur. Mohamed Ali Toumi est ministre tunisien du tourisme.
C'est vrai qu'on ne peut pas sauver toute la saison, mais on va tout essayer pour sauver une partie de la saison et surtout pour restaurer la confiance. C'est ça le plus important maintenant, c'est que les gens qui travaillent dans le tourisme reprennent confiance et y croient de nouveau. Et je crois que le but serait atteint avec l'arrivée de cet avion et d'autres prochainement.
Le tourisme représente entre 8 et 14% du produit intérieur brut de la Tunisie et emploie environ 500 000 de personnes. Entre le 1er janvier et le 10 juillet 2020, les revenus du tourisme ont diminué d'environ 50%.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.